pour rappel, vous avez des taniers ici, tenez. Page 95. Dans le cours de la semaine dernière, on s'est arrêté longuement sur la notion qu'il fallait parfois savoir changer de lunettes.
Oui.
Vous vous rappelez ?
Absolument.
Que la même situation donnée, il y a une première façon de l'analyser matériellement, ce qu'on appelle du bas vers le haut, et une autre façon, c'est de l'analyser du haut vers le bas. En d'autres termes, quand il y a un événement qui arrive dans notre vie, ou quand de façon générale on observe une situation, une première façon d'analyser, c'est de dire qu'est-ce que moi j'en pense de la situation. Ça, c'est les lunettes d'en bas. Une autre façon, c'est de se dire qu'est-ce que Dieu pense de la situation. Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse maintenant? Pourquoi Dieu a fait tout ça? Ça a l'air bateau ce que je suis en train de dire, ça a l'air simple. Mais je suis sûr que ceux qui ont fait l'essai se rendent compte tout de suite.
Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est lui qui a envoyé?
On commence, je vais faire un résumé s'il vous plaît. Doucement, je viens de commencer.
C'est lui qui a envoyé.
Doucement.
Comme on dit en Pologne, c'est...
Et donc, Bumrila, on commence. Et donc, on est en train de dire qu'il faut savoir changer de lunettes. Changer de lunettes, ça veut dire que il y a la façon comment un homme voit les choses et il y a la façon comment Akadosh Baruch Hu voit les choses. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Yehuda Ila'a, Yehuda Tata. Il y a l'unité suprême et l'unité terrestre. L'unité terrestre, c'est la façon comment les hommes voient les choses. Je vais vous donner plusieurs exemples. On s'arrêtait longuement sur l'idée. Et il y a la façon comment Dieu voit les choses. Et parfois, c'est pas la même chose. C'est pas la même situation. Si on réfléchit bien, l'homme est extrêmement égocentrique. Tout ce qui lui arrive, voilà, il a des grèves, il a des trucs qui lui arrivent, etc. Il a des trucs dans sa famille, il a des trucs dans la parnassa, il a des trucs dans la santé. On va dire, pourquoi ça m'arrive, comment c'est que ça m'arrive, etc. Il va râler, parce qu'il a les lunettes d'en bas. Quand une personne a les lunettes d'en haut, ça change tout. Ok? Bon, maintenant, si vous voulez bien, bon, ça, je ne veux pas revenir dessus parce que c'est un sujet qu'on a développé longuement la semaine dernière. Et ceux qui veulent sont invités à voir l'enregistrement la semaine dernière. Alors, on va prendre maintenant la page 95. Veiné. Les machines d'Iber, avec ce qu'on a expliqué, Yuvan Machekatouv, vous avez dans les mots, page 95 en bas, étude du 22 ou 23 Sivan. Voilà, en bas, deux paragraphes à la fin. Veiné. Les machines d'Iber, avec ce qu'on va expliquer, Yuvan Machekatouv, on va comprendre ce qui est écrit dans Malachi, c'est un prophète, Ani Hashem Lo Shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. On l'a cité la semaine dernière, juste à la fin. Ça veut dire quoi lorsque Dieu dit « je n'ai pas changé » ? Ça veut dire quoi ? Qu'il ne change pas. Pirouche, ça veut dire. Chez En Shun Shinu Klal, il n'y a absolument aucun changement. Que Moshe Haya Levado Kodem Briata Olam, tout comme il était, Dieu était seul avant la création du monde, car ou levado, achar shenivra, de la même façon, il est seul après que le monde a été créé. Alors ça, là, si vous voulez, on va rentrer aujourd'hui dans un des sujets les plus complexes du judaïsme. Je pense qu'avec le Tania, on verra beaucoup plus clair d'ici la fin du cours. Avant que Dieu a créé le monde, il était seul?
Oui.
Oui. Maintenant, une fois que Dieu a créé le monde, est-ce qu'il est toujours seul?
Il est unique, c'est pas?
Oui, je comprends, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune différence avant et après la création du monde? Rien qui a changé.
Il a créé les êtres.
Attendez, je comprends. Là, vous rentrez déjà dans des réponses sophistiquées. Je pose une question simple. Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non?
Oui. C'est vrai.
Ça change rien pour lui.
Évidemment, qu'est-ce que j'ai envie de répondre? Bien sûr qu'il y a une différence. Avant la création du monde, il n'y avait que Dieu et il n'y avait pas de monde. Une fois que Dieu a créé le monde, il y a Dieu et il y a un monde. Maintenant, bien sûr que Dieu dirige le monde, tout ce que tu veux, etc. Mais il y a Dieu et il y a un monde. Qu'est-ce que dit le prophète Malachi? Et c'est un texte qu'on lit tous les matins. Enfin, j'espère que vous lisez tous les matins. C'est avant Odou, c'est dans les... C'est pas des pages... Tu sais, les gens qui pensent qu'au début du livre, la prière commence à la page 40, tu vois. Tout ce qui est avant, ils pensent que c'est juste...
C'est moi, Dieu.
De la paperasse, tu vois.
Non,
je vise personne.
Non,
pas de la paperasse, c'est sérieux ce qu'il y a écrit là-bas.
Non, c'est quand il y a des gens qui arrivent. Quelle page on est?
Alors, c'est écrit là-bas comme ça. C'est écrit « Ataou Atchelo Nivra Olam, Ataou Michi Nivra Olam ». Akadosh Baruch Hu, il est le même avant que le monde ne fût créé, et il est le même après que le monde a été créé. Comment c'est possible?
C'est normal.
C'est impossible. C'est impossible qu'il ne l'ait pas changé. Parce que si tu me dis que Dieu n'a pas changé, c'est-à-dire que le monde n'existe pas. Or, le monde existe, parce que la Torah nous raconte que Bereshit bara Elokim et Hashemayim v'Taretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, si le monde existe, c'est que le monde est vrai. Et si le monde est vrai, c'est qu'il y a une création du monde. Et s'il y a une création du monde, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après.
Oui.
Et donc, il y a quelque chose qui a changé. Alors, comment on peut dire que pour un Kadosh Baruch Hu, Dieu est toujours seul? Je ne rentre pas dans la notion de temps et d'espace. Je rentre pas dedans. Je rentre dans une notion. Est-ce que, pour Dieu, la création du monde a changé quelque chose? Prophète Malachi te répond une réponse très claire. Il laisse aucun doute. Ani Hashem lo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Il n'y a rien qui a changé pour Dieu. Comment c'est possible? Alors, pour répondre à cette question, on va faire appel à Maïmonide. Grand classique de Maïmonide. Bonsoir. D'accord? Qui essaye de comprendre, Maïmonide essaye de comprendre comment peut-on analyser la présence d'Akadosh Baruch dans ce monde? Est-ce que Dieu et le monde forment deux choses différentes? Maïmonide va prendre un angle très intéressant. Alors, ceux qui ont étudié le Tanya, on a déjà vu cet angle, ça fait très longtemps, quand même, ça fait un bout de temps. C'était dans le chapitre 2 du Tanya. Chapitre 2. Pas, là, on est dans la section Shaïchoud. Dans le chapitre 2 de la première section, qui avait 53 chapitres, qu'on a étudié, je crois, il y a 6 ans. D'accord? 5 ou 6 ans, ouais. On avait étudié chapitre 2, là-bas. Et là-bas, il a cité ce Rambam. Mais il n'a pas expliqué. Là-bas, il a dit très rapidement. Ici, on va le développer. C'est là qu'on va le développer. Parce que là-bas, quand vous êtes dans le Tanya, il dit, comme j'ai expliqué ailleurs. Dans chapitre 2, vous verrez là-bas, il dit, et comme ça, Maïmonide dit, comme j'ai expliqué ailleurs. C'est où ailleurs? C'est ici. Donc c'est, ça va se passer aujourd'hui. Maïmonide va nous expliquer. Alors pour tout vous dire, si vous voulez chercher plus loin dans Maïmonide, c'est dans Ilchot Yesodé à Torah. C'est dans les lois des fondements de la Torah. Maïmonide commence son ouvrage, Mishneh Torah, par les lois des fondements de la Torah. C'est dire, ça veut dire, avant même de parler des lois, du Shabbat, des fêtes, etc. Tu dis, attends, d'abord, les lois des fondements, les bases. Quand tu construis un bâtiment et que tu n'as pas de pilier, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Donc, quelles sont les fondations de la Torah? Alors, bien sûr, la première fondation, c'est que Yesod et Yesolot Vamud Hormot, le fondement des fondements, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Oui, mais. Il me dit, oui, mais je comprends bien qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, mais comment ça fonctionne? Est-ce que quand on. Et là, il utilise un angle intéressant. Il dit, quand on parle par exemple de la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a sa pensée. Oui, il y a Dieu et il y a sa pensée qui forment deux éléments distincts. On prend un exemple très simple. Prenons l'exemple d'un être humain. Voilà. Moi, je vous parle maintenant. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous expliquer une idée. Donc, il y a l'être humain. Il y a un monsieur. Il y a la connaissance, c'est-à-dire le sujet que j'étudie. Et il y a le sujet que j'étudie tel qu'il rentre dans ma tête. Et si on réfléchit bien, vous verrez que les trois éléments que j'ai dit, que Maïmonide va expliquer, ce qu'on appelle Yodéa, Yadoua, Déa. Trois choses. Il y a la personne qui étudie, il y a le support qui est étudié, et il y a le support qui est étudié tel qu'il est perçu par la personne qui étudie. C'est trois éléments complètement différents. Parce que moi, d'abord, j'existais avant que le texte existe. En tout cas, j'existais avant que j'étudie le texte.
Donc, l'homme.
Très bien. Donc, l'homme. Non, mais attendez. Ça veut dire que mon existence ne dépend pas de ce texte.
Ah non, bien sûr.
Ok. Maintenant, d'un autre côté, ce texte existait aussi avant que j'existe.
Absolument.
Donc, ce texte ne dépend pas de moi. Donc là, déjà, on a deux éléments distincts. Il y a moi, il y a le texte. Et après, il y a la troisième chose. Bonsoir. D'accord. C'est le texte tel que je l'ai lu, tel que je l'ai compris. C'est, je peux prendre le même texte, je le fais tourner ici à 15 personnes autour de la table. Il n'y a pas un qui va le comprendre de la même façon. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans la personne, on n'est pas dans le texte, on est dans la façon comment la personne a vécu le texte. Et de la même façon, bon, là il parle de savoir, mais on peut appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Imaginez qu'il y a un événement qui se passe. Voilà, vous assistez à un grand événement. Il y a toujours trois facteurs. Premier facteur, c'est l'homme qui assiste. Deuxième facteur, c'est l'événement. Et troisième facteur, c'est la façon comment l'homme vit l'événement, le vécu. Et ces trois éléments chez un être humain sont des éléments distincts. C'est-à-dire qu'à moi, il y a l'élément, et il y a l'élément tel que je le perçois. Et c'est des éléments distincts. C'est-à-dire qu'à moi, il y a ce que je suis, et il y a ce que je pense. C'est pas forcément la même chose.
le texte lui-même.
Le texte, maintenant, on est tous occupés en train d'essayer de comprendre une idée. Mais l'idée que j'aurai de développer maintenant ne me définit pas du tout. Cette idée ne me définit pas. C'est une idée que j'étudie. Donc il y a un moi qui s'appelle Mendy Assouline, qui est en train d'étudier une idée, qui est en train de se concentrer sur une idée. Mais l'idée, c'est pas moi, et moi, c'est pas l'idée. Grande question que pose Maïmonide, lorsqu'on parle par exemple de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce que Dieu et la Torah forment deux éléments distincts? Est-ce que Dieu peut exister sans la Torah? Est-ce que la Torah peut exister sans Dieu?
C'est lui qui l'a créé.
C'est pas ça.
Oui, mais ça change pas ça. Parce que si vous dites que c'est Dieu qui l'a créé, je pourrais vous dire la même chose. C'est une idée que j'ai eue. J'ai eu une idée. Mais l'idée, c'est pas moi. Vous me suivez? Imaginez que vous vous levez ce matin, vous avez une superbe idée. Est-ce que cette idée, c'est vous? Non. Moi, c'est moi. C'est Michel Lacoste. Et j'ai eu une idée qui s'est greffée à moi, qui s'est intégrée en moi, tout ce que tu veux, qui vient de moi, qui émane de moi, mais c'est pas moi.
C'est Dieu qui nous l'a jeté.
Hein?
Enfin, c'est Dieu qui nous l'a jeté. Non, c'est moi.
Elle peut venir de moi, mais c'est pas moi. C'est pas mon essence. Ça me définit pas. Ça veut dire que, de la même façon, si on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, parce que là c'est un exemple que donne Maïmonide. Mais Maïmonide, en fait, il veut expliquer cette idée que chez l'être humain et dans toute existence, il y a une relation en général de cause à effet. Toujours une cause et un effet. C'est-à-dire que c'est une relation avec quelque chose. C'est une relation avec une personne, une relation avec une idée, une relation avec un objet. C'est une relation avec quelque chose. Il y a toujours ces trois éléments. Il y a la personne, il y a l'objet, et il y a l'objet tel qu'il est pris par la personne.
L'interaction,
exactement. Et c'est trois éléments distincts. Toujours. N'importe quel élément que vous pouvez prendre dans la vie, n'importe quel élément. D'accord? Voilà, vous avez mangé par exemple. J'ai mangé. Il y avait un cracker, il y avait moi, il y a le cracker tel que j'en gère. Trois choses différentes. Le cracker existait sans moi, moi j'existais sans le cracker, et la façon comment j'ai mangé le cracker, c'est pas la façon comment lui l'a mangé. Tous les domaines de la vie, toujours ces trois facteurs. Le problème, c'est que pour Dieu, on peut pas dire ça. On peut pas dire que Dieu, il a créé quelque chose qui est indépendant de lui. Même de dire que c'est un tout, c'est une composition, on peut pas dire ça par rapport à quoi ça genre. Et c'est ça la grande question que pose Maïmonide. D'accord? Je vais lire dans les mots ce qu'il dit Maïmonide et on va développer. Parce que ça, c'est un sujet très important dans la pensée juive. Il ne faut pas passer à côté. Alors, on va passer à la page, on est à la page 97.
D'accord.
Donc, Vezeush, enfin. Enfin, on va prendre la page 96 au milieu. Vezeu sheomrim, atahu atchelo nivra olam, atahu. On l'a dit, mais je reprends la phrase. C'est là ce qu'on dit, que Dieu, tu étais avant que le monde ne fût créé, et tu es après que le monde a été créé. Blishum shinui beatzmuto velo bedato. La création du monde ne forme aucun changement, ni dans l'essence de Dieu, ni dans sa connaissance. Pourquoi? Il faut qu'on explique. Ki biyedi atatzmo yudea kol hanivraim. Car Dieu, en se connaissant lui-même, il connaît tous les êtres créés. Je répète, il ne faut pas passer à côté là. Dieu, en se connaissant, il connaît tous les êtres créés. Sheakol, mimenu, uvatel, mitsu, tetzlo. Car tout procède de lui et tout est effacé dans son existence devant Hachem. Et là, il amène Maïmonide. Ça va être la clé qui va nous permettre de comprendre le cours d'aujourd'hui. Comme moi, Sheketava Rambam, comme a écrit Maïmonide, Shehua yodea, vehua yadua, vehua dea atzma. Que Akadosh Baruch Hu, alors là c'est les termes un peu philosophiques, hein, mais c'est ce que je vous expliquais. Dieu est le connaissant, le connu et la connaissance elle-même. Et tout ça, Akol Echad, tout ne fait qu'un. Loi des, donc c'est les fondements de la Torah, chapitre 2 de Maïmonide.
Là ça répond à la question de tout à l'heure.
Attendez, donc voilà, donc je repose la question. Quelle question hein? Madame Sebenita, il répond à la question. C'est bien, Razak.
Non.
C'est bien, Razak. Allez-y. Allez-y.
Le connu et la connaissance.
Est-ce que c'est différent ou pas? Avant ou après?
Est-ce que c'est différent avant ou après la création du monde? Quelle est la réponse?
Dans ce cas, non.
Apparemment, il n'y a aucune différence.
C'est ce qu'il dit là, exactement ce qu'il dit.
Donc, le connaissant, c'est qui le connaissant? C'est Dieu. Le connu, c'est quoi le connu?
L'homme.
C'est ce qui, voilà, c'est l'homme, c'est la nature. D'accord? Et la connaissance, c'est quoi la connaissance?
L'intelligence.
Quelle est la différence entre la connaissance et le connu? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a Mendy Assouline, il y a le cracker, Et il y a le cracker tel qu'il est ingéré par Mehdi Assouline. C'est trois choses différentes. Il y a là, comme, là, on va quitter la nourriture, on va revenir aux choses sérieuses. On a le connaissant, c'est l'homme qui, enfin, l'être qui connaît, mais là, c'est pas un être, c'est Hachem. On a le connu, c'est-à-dire la chose qui est connue, et on a la connaissance elle-même. Et on dit Maïmonide, il dit cette chose-là, chez Akadosh Baruch Hu, ces trois éléments forment un seul élément. Maintenant, il précise tout de suite. C'est Maïmonide, c'est les mots de Maïmonide, ça. Mais d'avarzé, cette chose-là, en koar bepe le omro, il n'est pas au pouvoir de la bouche de l'exprimer. Velo beozen le shomo, ni au pouvoir de l'oreille de l'entendre. Velo belève à Adam le akiro alborio, et ni le cœur et l'esprit de l'homme est capable de le comprendre clairement. C'est-à-dire le grand Maïmonide, c'est un géant, c'est lui qui te dit qu'il comprend pas, et qui va comprendre? Il te dit pas on peut pas comprendre.
Non, mais ce n'est pas à la portée de l'homme.
Faites bien attention aux mots qu'il a dit. Il n'a pas dit, laisse tomber, tu comprendras pas. Il a dit, on peut pas le comprendre clairement. Ça veut dire que tu peux essayer de capter un petit peu. Et tu vas capter quelques bribes, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mais tu peux pas le comprendre clairement. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas conçu dans ce système. Ton cerveau, notre cerveau, est conçu pour avoir toujours une interaction avec d'autres choses. Il y a même plein d'exemples ici. Je donne un exemple. Prenez par exemple, voilà, je vais toucher. Allez. Je vais toucher un verre. Le verre, il est chaud ou il est froid?
Non, il est froid. Tiède.
Est-ce qu'il est chaud ou il est froid?
Il est froid, là, pour
moi. Là, pour moi, est-ce que le verre est chaud ou il est froid?
Il est froid, pas chaud.
Pour moi, le verre est... Il est ni chaud, ni froid, il est tiède. Maintenant, peut-être viendra une autre personne, qui va être sur Mars ou je ne sais où, qui va toucher ce verre et qui va dire le verre est chaud. Ou qui va me dire le verre est froid. À la même température. Comment tu expliques ça? Est-ce que le verre est chaud?
Oui, c'est la même question que est-ce que le verre il est à moitié plein ou à moitié
vide. Non, c'est une question sérieuse que je pose. Vous aussi, c'est une question sérieuse.
Là aussi, c'est pareil. Hein.
Le verre, la température du verre est à quel degré là?
18.
18, non, il serait froid à 18.
Non, 18. 20. Non, il est tiède. Il y a 12 degrés, 13 degrés.
Combien?
Un gobelet.
Bon, donnez-moi une température, je vous suis.
13 degrés.
Qui c'est, mieux, c'est toi les températures. Travail, hein? 20 degrés. Ah, okay. Allez, disons 20 degrés.
Monsieur, attendez.
Maintenant, 20 degrés, c'est chaud ou c'est froid?
Non, c'est normal.
C'est normal pour qui? Ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui?
Ma température.
Comme la température de mon corps est à combien?
37.
Donc par rapport à ma température, je dis, moi 37, c'est chaud.
Ah oui.
Tu mets moins que 37, bon, c'est froid. C'est froid, c'est tiède. Tu mets 0, c'est froid. Mais est-ce que le verre en soi, il est chaud ou il est froid? Le verre en soi, il est ni chaud ni froid. Il a une température. C'est une donnée. Maintenant, par rapport à moi, à la température de mon corps, je considère que ça, c'est chaud, ça, c'est froid. Mais dans l'absolu, il est ni chaud ni froid. Il est ce qu'il est. Vous me suivez? Ça, c'est un exemple pour montrer que... En vérité, on va attribuer des notes à des choses, on va définir les choses par rapport au vécu qu'on en a, par rapport au ressenti qu'on a. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah, il est intelligent, vous dites, ah, il est bête. Comment tu définis une personne intelligente, une personne qui est bête?
Par rapport à un environnement.
D'accord, donc comment tu définis? Qui te permet de décider que cette personne il est intelligent et que lui il est bête? Tu penses que Dieu a créé des gens bêtes?
Bah heureusement oui.
Hein? Oui, alors justement.
Comment tu définis?
C'est parce qu'il y a les intelligents que ceux-là sont bêtes.
Est-ce que dans l'absolu, ce monsieur est intelligent ou ce monsieur est bête? Non. Dans l'absolu, il est ce qu'il est. Tu goûtes un plat, tu dis c'est bon, c'est pas bon. Qui t'a dit que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que
le plat il est là?
Qui t'a dit? Parce que peut-être moi je vais goûter, je vais dire il est pas bon. Et une autre personne qui va goûter, il va dire c'est très bon.
Bah oui.
Donc ça veut dire que...
Maintenant, dans l'absolu, le plat il est bon ou il est pas bon? Il est ni l'un ni l'autre. Il est ni l'un ni l'autre. Le plat c'est un plat.
Il est tel qu'il est.
Seulement moi, qui va goûter ce plat, je vais avoir une interaction, une appréciation de ce plat. Et moi je vais dire le plat il est bon, lui va dire il est pas bon. Donc c'est encore... Vous voyez, on retrouve la même idée. Il y a moi, il y a le plat... Et il y a ma conception du plat. Il y a l'objet qui a une température qui est ce qui est. Qui peut être froide ou chaude, ça dépend de la planète où elle est, ça dépend de l'environnement, il est ce qu'il est. C'est lui. C'est l'objet. Il y a moi, et il y a moi qui perçoit l'objet. Et on peut être deux personnes différentes, voire deux réalités complètement différentes. Alors ça fait beaucoup réfléchir ça. Parce que ça nous apprend qu'en vérité, dans la vie, on a très peu de référentiels. Des fois, on te dit, on te présente une situation, on te dit, qu'est-ce que t'en penses, Serge? C'est bien, c'est pas bien? Qui te dit que ta réponse sera bonne?
Ah, on sait jamais.
Vous savez, là maintenant, par exemple, vous avez aux États-Unis, d'accord, aux États-Unis avec l'Iran. Bon, un exemple, j'ouvre une petite parenthèse tout de suite, mais voilà. Chacun pense de l'autre que c'est le Satan. C'est-à-dire, tu demandes à un Iranien, qu'est-ce que tu penses des Américains? Il va dire, c'est le mal absolu. Tu demandes à un Américain, qu'est-ce que tu penses? Il va dire, c'est le mal absolu. Maintenant, les deux utilisent des armes.
Oui, enfin bon.
On a envoyé un missile pour tuer quelqu'un, non? On a tué du monde. Oui. T'as tué des gens. T'es pas venu leur distribuer des bonbons. T'es venu le tuer, il y en a tué du monde. Maintenant, tu dis oui, mais il voulait. Mais lui aussi, il va dire que toi, tu voulais. Bien sûr qu'il va le tuer. Tout le monde veut tuer. C'est la guerre. Mais qui a raison? Qui est le bon, qui est le mauvais? De quel droit, moi, j'affirme que je suis le bon et que lui, c'est le mauvais? Et peut-être, moi, je suis le mauvais et lui, c'est le bon. Pourquoi tu te prends? N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Pourquoi? Qui te dit?
C'est des fous, mais je reconnais. Enfin.
Mais eux, ils disent que toi, t'es un fou.
Mais
sûr.
D'accord, mais oui,
Dis-moi, oui. Tu fais Shabbat? Attends, une question. Tu fais Shabbat? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui font pas Shabbat?
Malheureusement, oui.
Ils pensent que t'es un fou.
Alors que toi, t'as raison.
Et toi, tu penses que c'est eux les fous. Qui a raison?
Je pense que c'est moi, mais bon, après.
Pourquoi? De quel droit tu penses que t'as raison?
Voilà, je fais Shabbat, c'est mieux que. Non. Merci là, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Mani.
On parle de normalité.
Donc, il nous faut des.
Des références, oui,
il faut des repères.
Repères.
C'est ça le problème, il nous faut des repères. Le seul repère fiable que je puisse avoir, c'est quoi? C'est pas l'Occident. Parce que l'Occident fait des bêtises. Moi, je sais pas pourquoi ils sont partis en Irak. Enfin, maintenant, ils sont pas. Je sais pas ce qu'ils sont partis chercher en Irak. Ils sont partis faire la paix dans le monde, ils sont partis chercher des sous, ils sont partis faire des choses. Je sais pas ce pourquoi ils sont partis. Et probablement qu'il y a un peu de tout. C'est la vérité. Il faut écouter les gens qui parlent. Il faut écouter les gens qui te disent des choses. Les gens sont sur le terrain, ils voient des choses. C'est la vérité. Pourquoi vous venez, vous dites que vous avez raison et nous on a tort? Et dans tous les domaines de la vie. Tu vas en Israël, conflit au Moyen-Orient. Tu vas en Israël, ils sont en conflit. Ah, chacun il pense qu'il est maître. Eux, ils disent qu'ils ont raison. Moi, je dis que j'ai raison. Qui me prouve que j'ai raison? Parce que je le dis.
Oui, non, mais on se met avec des menteurs, des voleurs, des tueurs, des connards.
Enfin, non, oui. Il suffit pas simplement parce que je le dis. Il suffit simplement d'analyser votre comportement par rapport au comportement qui est en face, et je vais analyser les deux.
Ok. Maintenant, imaginez qu'il y avait encore maintenant en face de vous encore 10 peuples qui ont encore un comportement qui ressemble à l'iranien. Imaginez que le comportement iranien devient le comportement de l'Occident. Qu'est-ce que vous penserez? Imaginez que l'Occident se comporte comme Iran maintenant.
Alors, bon, ils sont tous les deux pareils.
Alors, on dira, c'est la majorité. C'est la majorité. Les Juifs sont encore minoritaires. C'est nous qui avons raison. Qui te définit? De quel droit tu définis que eux, ils ont tort et moi, j'ai raison? Parce que tu es majoritaire. D'abord, on n'est pas majoritaire. Non, mais et les Juifs, les Juifs, la majorité n'a jamais été un signe, un indicateur pour savoir si on a raison ou pas, parce que sinon, depuis longtemps, on dormait la clé sous la porte. Parce que les Juifs, on est minoritaire dans le monde. Et dans cette minorité même, les Juifs religieux sont minoritaires. Et dans la minorité de juifs religieux, les juifs qui font Shabbat comme il faut, d'accord, c'est encore la minorité. Donc si tu dis qu'on définit la véracité d'une chose par rapport à la majorité, mais laisse tomber, c'est fini, on met la clé sous la porte. Ça marche pas. Donc il nous faut un vrai repère. Et le seul repère qu'on a, c'est quoi? C'est la Torah.
C'est nos lunettes.
D'accord? Maintenant, pourquoi on a besoin d'un repère? Parce qu'encore une fois, parce que nous, dans le système qu'on a, il y a moi et il y a la chose. Et je crée une appréciation de la chose par rapport à ce que je pense, mais rien me garantit que j'ai bien compris. Peut-être j'ai mal compris. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ce problème. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, et la connaissance et l'élément connu, c'est un seul élément. C'est pas trois éléments distincts, c'est un élément. Dans Maïmoni, il te dit clairement, il te dit, sache que ça, le cerveau humain ne peut pas le comprendre à 100%. Parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour ça. Le cerveau humain est conçu pour avoir des interactions. Tout le temps. Avec tout ce qu'il a autour de lui. Depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il est comme ça. Interaction avec sa mère, avec la nourriture, avec l'air. Il y a une interaction. Tu viens dans un endroit, d'accord? Tu rentres dans un endroit, tu dis, ah, ça sent pas bon ici. 10 minutes plus tard, on dit alors, est-ce que ça sent bon? Je sais pas, je sens plus rien. Alors, ça sent mauvais ou ça sent pas mauvais? Est-ce que l'endroit sent mauvais ou pas? Peut-être oui, peut-être non.
Ouais, mais dans ce cas-là, il y a...
Peut-être que ce que toi, tu considères sentir mauvais, c'est une bonne odeur.
Bah oui.
Qui te dit?
Ah, tu me donnes 20 à 2000 euros, je dégage.
Donc voilà. Ah ouais. Donc, Alors tu dis quoi? Alors parce qu'il y a eu des groupements de gens qui ont décidé que ce vin, il vaut 2000 euros, il vaut 2000 euros. Bah, pour moi, il vaut pas plus que 5 euros. Qui a décidé qu'il vaut 2000 euros? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
Le connaisseur, il est très bon.
Alors. Ah, ok, le connaisseur. Qui leur a dit qu'ils sont des connaisseurs? Non, mais c'est une question sérieuse.
Ils ont fait des études pour.
C'est rien, les études.
Ils sont.
Non, mais d'accord. Monsieur Benita, la Gemara dit comme ça. Elle dit ton garant a besoin d'un garant.
Oui, mais alors on n'en finit plus.
Mais bien sûr, on n'en finit plus. Bien sûr. Tu dis, je t'amène un garant. Ton garant a besoin d'un garant. Je dis, oui, mais j'ai appris à l'université. Mais l'université a besoin d'un garant. D'où elle a pris ça? Maintenant, je remets pas en cause le cerveau humain. Le cerveau humain est conçu comme ça. Toute notre vie est conçue comme ça. Depuis qu'on est petit, on se base sur notre appréciation des choses et on se construit comme ça. Et c'est bien qu'on soit comme ça. Aucun problème avec ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des failles. Le rabbi donne souvent cet exemple de les Allemands, ils marchaient même. Tu sais que le rabbi a vécu la guerre ici. Il a vécu la guerre à Paris, pas qu'à Paris d'ailleurs. Paris, à Berlin.
À Nice.
Et oui, bon, enfin, il a vécu la guerre. Et il a raconté une fois qu'une des choses qui l'a interpellé, c'est comment c'est possible que les Allemands, qui étaient à l'époque le summum de l'unité négative, ça veut dire qu'à l'époque, les plus grands docteurs, les plus grands philosophes, les plus grands musiciens, les plus grands intellectuels étaient là-bas.
Des bêtes. C'est vrai.
Alors, si tu m'avais dit encore que c'était un comportement qui était arrivé dans un pays du tiers-monde, j'ai rien contre un pays du tiers-monde, mais bon, des fois, des gens qu'on les a pas aidés à évoluer leur cerveau. Ils étaient éduqués comme les animaux, malheureusement. C'est pas de leur faute, c'est éduqué comme ça. Et qu'une personne qui est éduquée comme un animal réagisse comme un animal, c'est une chose. Mais qu'une personne qui se dit intellectuelle et qui est intellectuelle, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai une grande partie du système qu'on a aujourd'hui est basée sur des choses qui ont été conçues à cette époque-là, dans tous les domaines du monde. D'accord? En physique, en mathématiques, dans tous les domaines. D'accord? En musique, tout ce que tu veux, tous les domaines. Alors, donc c'est des vrais intellectuels. Comment tu peux expliquer qu'un intellectuel arrive à une conclusion logique, rationnelle, qu'il faille se débarrasser d'une partie de la population, et il peut être là sans aucun problème à tuer des juifs, Dieu préserve, d'accord, en écoutant de la musique. C'est-à-dire que son cerveau est parfaitement calme. Il a la conscience complètement tranquille. On a beaucoup de témoignages sur ça. C'était très perturbant pour les rescapés, ça. Très perturbant. Ça veut dire, si tu dis encore quelqu'un, il te supporte pas, il te déteste, il a la haine dans les yeux, etc., il t'écrase, bon, c'est la guerre. Mais là, c'est encore pire. C'est une personne qui arrive à une conclusion froide et réfléchie qu'il y a un pan de la population qu'il faut éradiquer. Et il est calme. Comment tu peux arriver à ça? Comment c'est possible? Comment on peut arriver à une situation comme ça? Alors, Abbé explique, il dit que, en réalité, le fondement du problème, c'est que l'intellect humain, est capable de cachériser n'importe quel domaine de la vie. N'importe quelle situation que je te prends, n'importe quelle chose, même du poison, l'intellect est capable de te prouver que ce poison, c'est bon pour la santé. Sans aucun problème. Parce que l'intellect pur est capable de te dire une chose et son contraire sans aucun problème. De te prouver une chose, et 5 minutes plus tard, de te prouver le contraire, et les deux ont raison. Il nous faut des repères. T'as pas de repères, tu peux rien faire. Et on l'a vu clairement. C'est vrai que le rabbi, souvent, quand il parlait aux mariés, aux jeunes mariés, il leur disait que si c'est pas Hachem qui construit la maison, si on met pas Hachem dans le couple, ça peut pas tenir. Parce que on a vu clairement l'Avdil avec les Allemands, que si tu dis, bon, ça va, je veux construire mon couple comme tout le monde construit son couple. Je vais éduquer mes enfants comme tout le monde éduque ses enfants. Je suis pas le premier à éduquer des enfants. Je suis pas le premier à me marier. Il y a des milliards de personnes qui sont mariées. Je dis, oui, mais le problème, ce que t'as pas compris, c'est que si ton éducation, si ton couple ne se base que sur l'intellect, cet intellect est capable de te jouer des tours. Il est capable de te faire croire qu'une chose qui est complètement interdite et autorisée, c'est une mitzvah. C'est une folie. Comme a dit la Gemara dit, la première fois que tu fais une avéra, ça dérange. Deuxième fois, ça dérange un peu moins. Troisième fois, tu dis, c'est autorisé. Quatrième fois, c'est une mitzvah. Le gars, il est parti, il a trompé sa femme. C'est une faute très grave. C'était parti même regarder ailleurs. Il est parti. Maintenant, il est capable, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la quatrième fois, il est capable de te dire, c'est une mitzvah, comme ça, grâce à ça, quand je rentre chez moi, je suis mieux. Mais à boule. T'es malade ou quoi? Du tort.
Hein?
Mais en plus, il te le dit.
Il y croit.
Il y croit. C'est ça le pire. C'est un exemple qui amène les commentaires. Il y croit, le gars. Il est sûr à 100% de ce qu'il dit. Mais il est complètement fou. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de repère. Quand ton seul repère, c'est ton cerveau, tu peux aller où tu veux. Et c'est ça ce qu'il dit ici, l'Admor Hazaken. Quand il cite le Rambam. Chez nous, les êtres humains, il y a le Yodéa, le Yadoua et le Mada. Il y a trois choses. Il y a l'être humain qui connaît, il y a l'élément qui est neutre, et il y a mon appréciation de cet élément, qui peut varier. Qui peut être comme ci, qui peut être comme ça, qui peut changer. Je peux dire c'est bon, je peux dire c'est mauvais, ce qui varie. Chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est émet. Quelque chose qui est émet ne peut pas changer. Donc, puisqu'il ne peut pas changer, ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, celui qui connaît la connaissance et l'élément connu, c'est Echad, c'est la même chose.
Parce qu'à lui seul, il réunit la Trinité. Alors bon, c'est difficile.
Mais c'est très difficile à comprendre, parce que notre cerveau n'est pas conçu comme ça. Parce que le concept même d'une idée comprise, c'est qu'il y a une idée qui est extérieure à moi, que j'ai compris, que j'ai, on dit, en français on dit que j'ai assimilé. Si j'ai assimilé, c'est-à-dire qu'elle n'était pas en moi. Alors comment tu peux dire j'ai une idée si de toute façon elle était déjà en moi? Ça ne marche pas. Pour ça, Rambam, il te dit, tu peux comprendre un peu ce que je te dis, mais tu ne peux pas aller... Tu ne peux pas le comprendre al burio. Tu ne peux pas le comprendre clairement, parfaitement. Tu vas comprendre un petit peu. Oui.
Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a les êtres humains, et la, on va dire, la entre Hachem, donc il y a comme trois...
Encore une fois. Pourquoi moi je réfléchis comme ça? Parce que moi, dans mon système, tel qu'Hachem a créé la structure de mon cerveau, j'ai toujours l'habitude de créer une réaction, ce qu'on appelle Ila Ve'alou, c'est-à-dire une réaction de chaîne, d'enchaînement, une réaction avec un élément qui est externe à moi. Même Dieu, même quand je pense à Dieu, je pense comme ça. Je dis, il y a moi, et il y a Dieu, donc si je fais ça, Dieu ne sera pas content et il me fera ça. Donc encore une fois, je réfléchis comme un élément externe. Oui. Quand je pense à Dieu comme un élément externe. C'est la vérité.
Parce qu'il est le cas,
enfin. Non, c'est pas le cas. C'est faux. Dieu n'est pas un élément externe. Mais je le vois comme ça. Parce que mon cerveau est conçu pour le voir comme ça. Tu comprends? Là, par exemple, demain, j'ai un téléphone portable. Mon cerveau est conçu pour savoir que si je vais appuyer ici, il va se passer quelque chose. Et si je le mets à droite, il sera à droite. Si je le mets à gauche, il sera à gauche. Ça veut dire que il est conçu pour comprendre que il y a moi, il y a les éléments qui m'entourent. Et à moi de vivre en harmonie avec les éléments qui m'entourent. Et malheureusement, on pense comme ça aussi quand on pense à Dieu. Quand on pense à Dieu, comme on le voit, on dit, bon, Dieu, il est... Alors, il y en a qui, tu comprends, et des fois, tu leur dis, où est, des gens, tu leur dis, où est Dieu? Il dit, ah, Dieu, il est... Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tu vois. Tu vois au fond là-bas, encore plus loin, encore plus loin. Il est là-bas, il est au fond. Bon, même si tu vas voir la Emouna que Dieu est présent. Mais t'as pas la Emouna que Dieu c'est toi. Que Dieu est en toi, que Dieu c'est toi. Tu veux dire non, Dieu c'est. Dieu il est là, c'est-à-dire que j'interagis avec Hachem.
Oui,
il y a. D'accord oui. Ça veut dire, je fais des choses, il est content, il est pas content, il récompense, il punit, bon. Ça c'est parce que moi je réfléchis comme ça. Mon cerveau est conçu pour réfléchir comme ça. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Il n'y a pas trois éléments. Il n'y a pas la personne et l'objet. Faux. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui est tout en même temps. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Militaire, votre question? Ah, si monsieur Militaire n'a pas de questions, c'est deux possibilités. Ou c'est très clair, ou c'est pas clair du tout.
Non. On ne peut pas.
Ah, c'est vrai, tu vois, il y a une question.
On ne peut pas.
Merci beaucoup.
On ne peut pas. On ne peut pas mettre le texte, ce qu'il dit dans le texte. Donc, il y a trois personnes, trois éléments, il y a moi, il y a l'élément, etc. Et dire en même temps que Dieu, il renferme ces trois éléments en même temps. Donc, on ne peut pas se. On ne se bat pas à armes égales. Là.
On se bat avec qui?
Pour comprendre, pour le comprendre, pour essayer de percer, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le texte, derrière chaque mot, etc. On me dit, là, c'est pratiquement une porte fermée. Tu peux comprendre, tu peux l'entrouvrir à peine, mais tu ne peux pas l'ouvrir complètement.
J'ai compris. Monsieur Milita, en fait, là, je comprends très bien comprendre votre question. La question à laquelle on veut répondre, c'est une autre question ici. C'est comment c'est possible de dire que Dieu n'a pas changé avec la création du monde?
Mais je ne le sais pas.
Ah, attendez.
On sait attendez. Pas. Là aussi, c'est pareil. Hein.
Ah, attendez. Parce que
je reprends votre argument.
Mais laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Laissez-moi arriver. Imaginez, j'ai devant moi un verre d'eau. Je mets mon doigt dans le verre d'eau. Ok. Qu'est-ce qui va passer avec mon doigt? Il va devenir
mouillé.
D'accord. Donc là, il y a une différence. Avant et après. Avant que j'ai mis mon doigt, il était sec. Une fois que j'ai mis mon doigt, il est mouillé. Ok? Maintenant, nous, ce qu'on veut t'expliquer, c'est comment, pour Dieu, il n'y a pas de différence. S'il n'y a pas de différence, ça veut dire que pour Dieu, si vous voulez, le doigt, c'est l'eau, et l'eau, c'est le doigt. Mais attendez, mais c'est compliqué à comprendre ça, parce que si l'eau, c'est le doigt, et le doigt, enfin, si l'eau, c'est le doigt, et le doigt, c'est l'eau, dans ce cas-là, il n'y a pas un doigt, il n'y a pas de l'eau.
Oui, il y a tout un...
C'est la même chose. Donc c'est pas deux éléments différents. Donc on n'arrive pas à comprendre comment il a créé le monde, comment ça fonctionne. Parce que tout notre système est basé sur ça, sur le changement. Ça veut dire, par exemple, il y a un coup de vent qui arrive, j'ai froid. Pourquoi j'ai froid? Parce qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Il y a un coup de vent qui est venu, j'ai froid. Maintenant, est-ce qu'on peut dire il fait froid? Je sais pas s'il fait froid, moi j'ai froid. Un autre dira, j'ai pas froid, moi j'ai chaud. Il fait pas froid, d'ailleurs. C'est, le français, c'est la seule langue où on dit il fait froid.
Ah
oui. Comment on aurait dit normalement? Comment on aurait dit normalement en français?
Pour dire quoi?
Par exemple, il pleut.
Il pleut.
On aurait dû dire ça pleut.
Ah oui, ça il pleut. Oui.
C'est je suis sérieux. C'est une exception parce que c'est la règle. Hein? Pourquoi on dit pas ça pleut? C'est une exception. Cherchez dans le dictionnaire, vous verrez. Parce que on dit pas il pleut, c'est qui il? Il pleut, c'est qui il? Ça pleut, it's raining, ça pleut. Non, pas du tout. Parce que si tu veux dire en anglais il pleut, tu aurais dû dire is raining.
Non, mais c'est pas possible. C'est une action progressive, donc c'est obligatoire.
Évidemment, c'est une exception. Normalement, on aurait dû dire ça pleut. Ça pleut. Comme en anglais. It's raining. Une fois, il y a un Américain, il m'a dit que dans le français, on voit que quand on dit il pleut, ou il fait froid, on pense à HM. C'est HM qui pleut. Il pleut.
Il pleure même.
Il fait froid. Oui, c'est une exception. Mais c'est pas normal. Normalement, on devrait pas dire comme ça. Regardez dans toutes les autres langues, j'ai cherché. Même en hébreu. Même en hébreu. On dit pas il pleut. C'est qui il? C'est qui il? C'est qui ce il?
On dit, il descend le. En hébreu, on dit, il descend de l'eau. Yoled Geshem.
Oui, t'as compris.
Donc on dit pas.
Non, on dit la pluie tombe.
Yoled Geshem.
On dit pas il pleut, il n'y a pas il. La pluie tombe.
C'est-à-dire quand il s'adresse à quelqu'un.
Il va y avoir des métros, ils ont mis des métros, il y aura encore des grévistes. C'est
comme ça, c'est il. Il y a toujours un complément, par exemple, il se passe quelque chose. Se passe, donc il y a quelque chose. Mais dire il pleut. On aurait dû dire il fait pleuvoir ou c'est qui
la
il
pluie tombe,
la pluie tombe ça pleut
c'est le il la conséquence de l'action.
Eh ben bon je suis pas grammairien. Je suis pas grammairien mais voilà c'est une exception.
Voulais... là qui se parle à la troisième personne.
C'est la forme impersonnelle.
Puisque le temps n'a pas d'emprise sur Dieu.
Oui.
D'accord. Donc quelle différence ça peut faire entre le avant la création du monde et l'après?
Justement.
Il n'y a pas de.
C'est ça ce que dit Rambam. Rambam il dit pourquoi pour nous il y a des différences. Par exemple, il y a une différence avant que j'ai compris l'idée, après que j'ai compris l'idée. Pourquoi il y a une différence avant que j'ai mis le doigt, après que j'ai mis le doigt? Pourquoi il y a une différence avant que j'ai mis le pied dans l'eau chaude, après que j'ai mis le pied dans l'eau chaude, que mon pied a chaud, mon pied a froid? Parce que l'eau chaude et mon pied, c'est pas la même chose. Il y a l'eau chaude et il y a mon pied. Donc mon corps interagit. Et je vais vous dire, chez l'être humain en vérité, on peut pas trouver un seul élément qui est un avec moi. Aucun. Allez, on va prendre un exemple. Imaginez par exemple, je prends ce cracker. Ok, je vais le manger. Est-ce qu'il va faire un avec moi?
Oui.
Mais si tu réfléchissais avant de répondre.
De quoi?
Je parle à tout le monde. Hein? Ce cracker, je le prends, je l'ingère. Est-ce qu'il fait partie de moi? Non.
L'ingère?
Non.
Extérieur à toi.
Il fait pas partie de moi. Il ne définit pas. Il est dans moi. Il est en moi.
D'accord.
Mais il fait partie.
Il n'est pas moi.
Allez, on va aller plus simple. On va aller plus fort. Je vais étudier une idée, qui va entrer dans mon cerveau, Ok? Est-ce que cette idée, ça devient moi? Non! Cette idée, c'est une idée qui est rentrée dans mon cerveau. D'accord? Que j'ai assimilée, exactement. Mais c'est pas moi! C'est pas moi cette idée. C'est qui le moi? Très difficile à définir le moi.
Toi, c'est ton corps, ton corps, ton cerveau.
Non?
Si on reprend l'exemple.
Une fois, je reprends sa question. Une fois, l'Admour Hazaken était en train de jouer avec son petit-fils. Je vous raconte une fois l'histoire, l'histoire tragique, comment sa fille a quitté ce monde, elle a donné sa vie à son père, etc., une histoire extraordinaire. Et elle a demandé une chose, avant de quitter ce monde, elle a dit à la rabbanie de Voraléa, elle a dit à son père, l'Admor Hazaken, le fondateur de la Chassidut Rabba, l'auteur du Tanya, elle a dit de s'occuper de son fils, qui s'appelle Menachem Mendel, qui va devenir plus tard le troisième Rabbi de Lubavitch, Rabbi Tzvi Martinek. Une fois, Rabbi Tzvi Martinek, je ne sais pas quel âge il avait, il doit avoir peut-être 5-6 ans, je sais pas. Il était sur les genoux de son grand-père, l'Admor Hazaken. Et Edmond Razakan, il lui pose une question, il lui dit, c'est qui, papy? Vous le connaissez?
Non, c'est toi.
Hein?
Comment ça, c'est qui, papy?
Il pose une question, il dit, c'est qui, papy?
C'est sa jambe.
C'est lui, en fait.
Il parle de lui. C'est qui, papy? Alors il lui montre. Il lui montre la tête. Il lui dit, non, ça, c'est la tête de papy. Il lui montre le cœur. Il dit, ça, c'est le cœur de papy. Et bon, après, voilà, il lui montre les pieds. Non, ça, c'est les pieds de papy. C'est qui, papy?
Mais c'est tout ça, la
fin. Attendez, Hake, il va donner une meilleure réponse.
Ah, il faut que toi, donne.
Qu'est-ce qu'il fait, le psy? Le psy, c'est le gosse, un grand. Il descend son grand-père, comme les enfants, quand il descend. Il va jouer, et il simule une chute. Et il se met à crier, ah! Évidemment, son grand-père, il court pour aller le prendre.
C'est qu'il est tombé.
D'accord? Il entend son petit-fils, il reconnaît la voix. Et là, dès que le grand-père, il arrive, le petit-fils, il dit à son grand-père, il dit, c'est ça, papy.
C'est
ça, papy.
Ah, il vient me sauver.
Ah, ouais, c'est...
Il est parti, il a couru, il est tombé. C'est ça, papy. C'est qui, papy? De la même façon, tu dis, c'est qui, moi? Moi, c'est qui, moi? C'est qui, moi? Ça, c'est mon cœur. Ça, c'est mes pulsions. Ça, c'est mon intellect, mais c'est pas moi. La preuve, c'est que mon intellect peut changer. Ce que je pense aujourd'hui, je ne le pensais pas hier. Et probablement, demain, je ne le penserai pas. Et mes pulsions d'aujourd'hui ne sont pas mes pulsions d'hier. Et ne seront pas les pulsions de demain. Donc, c'est pas moi. Parce que moi, je n'ai pas changé. Moi, je suis resté le même depuis ma naissance. Mon moi est toujours là. Alors, c'est qui, moi? Mon moi est un élément qui peut se greffer, qui ne peut pas se greffer à quoi que ce soit. À rien du tout. Il y a des éléments qui viennent se surajouter à ça. Ça, oui.
Oui, en fait, c'est tout ça qui forme le moi.
Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu avec des éléments qui viennent se surajouter à lui. Des façons de voir les choses, des façons de ressentir. Non. C'est ce que dit Rambam. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Ou Ayodéa, ou Ayadoua, ou Ayadéa. Trois choses en même temps. Nickel, tu voulais dire quelque chose?
Comme tu as dit tout à l'heure que la nourriture que tu ingères, elle fait pas partie de toi.
C'est pas qu'elle fait partie de toi, c'est pas toi. La preuve, c'est que tu peux, quand tu nais, t'as un certain poids, après tu grandis, tu peux prendre du poids, tu peux perdre du poids, mais t'as pas perdu une partie de toi quand t'as perdu du poids.
D'accord.
Et quand t'as grossi, t'as pas plus de toi, t'es pas plus grand.
C'est toujours toi, oui.
C'est toujours toi.
Oui.
D'accord.
Et alors pourquoi quand il y a très longtemps, ouais, il y a un cours où on parlait de quelqu'un qui mangeait cachère, qui mangeait pas cachère justement, et qui faisait tchouva, et qu'on lui disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec... on a un problème avec les articles que tu as mangés quand tu mangeais pas.
Bien sûr.
Est-ce qu'au final, tu as grandi, et ce que tu es aujourd'hui, c'est composé de ça?
Ça, l'un n'empêche pas l'autre. C'est que ce que j'ai ingéré fera partie de mon corps ad vitam aeternam.
La poubelle.
Voilà. C'est la vérité. Hein? Mais ça n'empêche pas que c'est pas moi, ça me définit pas. C'est mon corps, c'est mon corps. Mais chaque élément que j'ai mangé, chaque pensée que j'ai eue, fera partie de moi ad vitam aeternam. On peut pas enlever une pensée de la tête, c'est pas possible. Tu peux pas enlever. Une image qui rentre dans ta tête, elle est là. Elle partira jamais. Tu peux faire tchouva, tu peux essayer de pas y penser, tu peux essayer de penser à autre chose. Mais elle est dans ta tête. La preuve c'est quoi? C'est que des fois, des gens comme ça qui peuvent avoir des maladies ou du préserve, des fois, 50 ans après, ils te ressortent une image qu'ils avaient il y a 50 ans. D'où elle sort l'image? Si elle sort 50 ans plus tard, c'est qu'elle était où l'image? Elle était dans les méandres du cerveau, elle était là. Elle était là. Imaginez la quantité d'informations qu'on a dans le cerveau. Des bonnes et des mauvaises, malheureusement. Mais ça, on n'y peut rien. Mais c'est pas moi. La pensée n'est pas moi. C'est ma pensée, mais c'est pas moi. Très, très important qu'on comprenne cette idée. Qu'il y a mon comportement, il y a mes pensées, il y a mes pulsions, et il y a le moi, qui est plus fort que tout ça.
Ça veut dire que...
Qui est le moi?
Ça veut dire que le moi n'existe pas.
Si
je poursuis si je poursuis ce...
Il n'y a pas Charles Benita, il n'y a pas, c'est un robot.
Là. Okay, là. Ah, ça cassé, dit, non.
Le moi, c'est un rêve.
Non, mais si je poursuis...
Parce que vous n'arrivez pas à le définir, vous n'en avez pas.
Ben oui, si on...
Non, c'est faux.
Si on définit pas.
Imaginez une personne qui ouvre un livre en hébreu. Il dit, ah, j'arrive pas à lire. Si j'arrive pas à lire, c'est que c'est écrit brouillage. Ok, tu sais pas, je sais pas. J'aurais dit, je sais pas. C'est pas parce que je sais pas qu'il y a pas.
Tu avais dit qu'on n'existait pas, c'est comme un rêve.
Moi j'ai dit ça?
Oui.
Ah, c'est chaud, non, je peux pas dire ça. C'est pas possible.
On pourrait penser ça, que
non. Non, mais voilà. On est là, mais est-ce qu'on est vraiment là?
Si on vit dans un rêve, ça aurait été plus simple. Non, pas du tout. Pas possible.
Matrix qui va ressortir le numéro 4.
Bon, le
moins, bon on avance un petit peu.
C'est tout ça réuni. Hein.
Ça fait réfléchir tout ça. Vous avez ça fait beaucoup réfléchir parce que moi déjà ce qui me fait réfléchir c'est que ça nous permet de comprendre que des choses qu'on pense avoir acquises en vérité, c'est l'appréciation qu'on a donnée à une certaine situation par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi. Que des fois une personne pouvait être au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il voyait les choses d'une certaine façon. Après il est venu en France. Et les mêmes éléments qu'on lui représente, il les voit d'une autre façon. Pourquoi il voit d'une autre façon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Les éléments sont les mêmes. Ils n'ont pas changé. Seulement, comme il a eu un autre truc dans la tête, il n'arrive plus. On lui sert un plat tous les jours, il le trouve bon. Un jour, on lui sert un autre plat qui est meilleur. Il reprend le plat initial, il n'arrive plus à le manger. Mais c'est le même plat. Il est bon ou il n'est pas bon?
Parce qu'il a goûté un autre qui est meilleur.
Donc, ça veut...
Donc il a fait la différence.
Oui, mais moi j'ai une question à vous poser. Le plat que tu as trouvé maintenant meilleur, on t'a donné un vin à 5 euros. Tu dis, ah, il est pas mal. Après, on t'a fait goûter un vin à 50 euros. Tu dis, ah, le vin à 5 euros, je ne le touche plus. Mais peut-être que, comme tu sais que si maintenant on te présentait un vin à 1000 euros, tu dirais que le vin à 50 euros, il vaut rien.
Ah oui,
donc, maintenant le vin à 50 euros, il vaut rien. Parce que dans le potentiel, on peut me présenter n'importe quand le vin à 1000 euros. Et si on présente un vin à 1000 euros, un autre, il présente un vin à 10 000 euros. Donc le vin à 1000 euros, il vaut rien aussi, parce que toutes les personnes sont présentes sur la 10 000 euros, ça vaut rien. On n'en finit plus avec ça. Vous comprenez le problème qu'on a? C'est que on vit dans un monde dans lequel on va attribuer des notes aux choses. On va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Lui il est réussi, lui c'est un raté. Ah. Lui il est intelligent, lui il est bête, comme ça. Tac, 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 comme les étiquettes partout. Qui t'a permis une étiquette comme ça? Pourquoi tu mets une étiquette? HM il a créé comme il a créé, c'est très bien comme il a créé HM. C'est pas un élément raté. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça.
Alors, c'est quoi le moi?
C'est quoi le
moi?
Le moi, c'est mon âme divine. C'est même pas mon âme divine, en réalité.
Ouais.
C'est l'essence de mon âme divine.
Ça veut dire quoi?
Oui.
La vérité, c'est que le moi, on le sent pas. On le sent qu'à des moments extrêmes.
Lesquels?
Comme par exemple, des moments extrêmes comme Kippour. La fin de Kippour, comme ça, tu le sens, comme ça. Des fois, ça arrive des années où il n'y a pas ça, on l'a pas. Mais t'as des années comme ça où t'es bien préparé, à la fin, tu sens un certain niveau très profond que t'arrives même pas à définir avec des mots. Ça, tu peux même pas dire c'était bien, c'était extraordinaire, c'est quelque chose que tu sens que ça dépasse ton cerveau et ça dépasse ton cœur. Tu peux même pas dire j'ai ressenti quelque chose. Parce que ressentir, c'est déjà un sentiment. C'est quelque chose qui dépasse encore le sentiment.
Donc,
très difficile à sentir.
Le...
Et il y a des cas, malheureusement, il y a des cas extrêmes où ça arrive aussi. C'est, comme on avait expliqué dans Tania, c'est des cas où Dieu préserve. On dit à quelqu'un qui est des fois des gens qui sont pas religieux, on leur dit convertissez-vous, on va vous tuer. D'accord? Et ils sont prêts à se laisser tuer. Ils donnent leur vie pour HM, pourquoi ils donnent leur vie? Ça, c'est leur vrai moi qui a parlé à ce moment-là. Mais ils parlent que dans des cas extrêmes. On a beaucoup de mal à le faire parler ce moi. Il est là, mais on a beaucoup de mal à le faire parler. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à faire attention à tout ce qui s'est surajouté à nous. Je vais vous donner je ne vais pas trop m'étaler, mais on pourrait donner plusieurs exemples. Dans l'absolu, ça n'a rien à voir avec le moi, mais je vais donner un exemple. Dans l'absolu, pourquoi tu manges? Dans l'absolu, pourquoi tu manges?
Pour
te nourrir.
Ah oui, pour se vivre.
Quand? Maintenant, qu'est-ce que ça change si ce que je mange est bon ou pas bon?
Ça
change rien.
Dans l'absolu, ça change.
Tant que c'est mangeable, c'est pas vérolé, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux. Maintenant, le problème, c'est que quand je vais dire, viens, on va faire un repas, à quoi tu penses?
Bon.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon?
Oui.
Donc, t'es passé à côté de l'essence du sujet.
Oui, là-bas, c'est
l'essence du sujet, c'est que tu vas te nourrir.
Bien sûr.
Maintenant, te nourrir, on n'a plus te nourrir avec des granules.
Bien sûr, c'est pareil.
D'accord? Dans lesquels on met les calories qu'il faut, tu manges, hein? Mais on te donne des calories, tu prends les calories qu'il faut, et c'est réglé. Avec pile par rapport à ton poids, par rapport, etc., c'est réglé. Tu sais, aujourd'hui, ils font des... Ils font des barres, des céréales comme ça. Tu prends une barre, exactement. Tu prends une barre, tu prends un cachet, tout est dedans.
Ça,
tu dis non, ça s'appelle pas manger, ça. Pourquoi ça s'appelle pas manger? Pourquoi ça s'appelle pas manger? Pourquoi t'appelles pas ça? Pourquoi moi j'appelle pas ça manger? Parce qu'on a créé, tout un système autour. D'accord? Exactement. Donc ça c'est un exemple, tu vois. Je veux te dire qu'en vérité, avec le temps, l'homme pollue tous les éléments de base qu'il a. Il a des fonctions de base. S'alimenter, manger, boire, dormir, regarder, c'est les éléments de base que HM t'a donné. Mais avec le temps, on les pollue. On rajoute beaucoup d'informations, on les pollue, et du coup, on les voit différemment. Et je suis même pas arrivé à l'essence encore. Parce que m'alimenter, c'est pas mon essence. Mais il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on a pollué. On a perdu la pureté qu'avait un enfant. L'enfant était pur, il voyait les choses clairement. J'ai faim, j'ai mangé, c'est tout, je comprends pas le problème. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon.
comme alimenté, c'est pas mon essence. C'est mon essence, c'est mon alimenté.
Non, c'est pas mon essence.
C'est alimenté, c'est pas mon
essence. C'est un besoin de mon corps. C'est pas mon essence.
Ah, ok, d'accord.
Parce que l'essence de mon âme n'a pas besoin de manger. Hein? Il y avait un maître.
L'essence de mon corps a besoin de vivre. Donc pour vivre, elle a besoin de s'alimenter.
Il y avait un mec qui s'appelait Hillel. Hillel Azaken. Hillel l'ancien. Et Hillel Azaken dans la Gemara. Mishnah aussi. Et on raconte que chaque fois qu'il allait manger, avant d'aller manger, non, avant d'aller manger, il disait à ses élèves, je vais aller faire du chesed avec la pauvre.
La pauvre.
C'est qui la pauvre?
C'est l'âme.
Non, son corps.
Les pauvres.
Son corps. Ça veut dire, je vais aller faire du chesed avec la pauvre. Hein?
La pauvre.
La pauvre.
La pauvre.
Skinam, skinam, la pauvre. Je vais aller faire du chesed. Du style la pauvre à la fin. Mais il parle de son corps.
Oui, oui.
Il parle pas d'un autre.
Il va donner à manger, quoi.
Il dit, bon, je vais aller faire du chesed avec la pauvre et à la fin, on va lui donner à manger. Pour montrer à quel point il a réussi à se dissocier de tout ça. Hein? Oui, nous, c'est le contraire. Moi, quand je viens à un cours de Torah, j'ai bon, allez, je vais faire un chesed avec l'âme divine, on va venir écouter un cours de Torah. Mais moi, je suis le contraire. C'est vrai. Aniolach, les gmol chesed imalouva. Les repères. C'est une question de repères. Ça, c'est nous, l'être humain. On a besoin de repères, et des fois, les repères, ils se déplacent, ils se changent, etc. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, le sujet, celui qui vit le sujet et le sujet tel qu'il est conçu, c'est la même chose. Ani Hashem lo sheniti, moi Hashem je n'ai pas changé. On va avancer un petit peu. Donc, Maïmonide nous a dit que ce sujet, il n'est pas du pouvoir de la bouche de l'exprimer, ni du pouvoir de l'oreille de l'entendre, et ni le pouvoir du cœur et de l'esprit de l'homme de le comprendre clairement. Parce que ça nous dépasse. Page 97 en bas. Ki Akadosh Baruch Hu Mahuto Ve'atzmuto Ve'da'ato, car Akadosh Baruch Hu, Dieu béni soit-il, son être et essence et sa connaissance, Akol Ehad Mamash Mikol Sadufina, ne font qu'un vraiment de tous côtés et de tout angle, Bechol Derichud, sous toute forme d'unité possible. Ve'en da'ato d'avoir nosaf, Al Mahuto Batsuto Kemoshu Benefesha Adam. Et sa connaissance n'est pas un élément surajouté sur son essence, tel que c'est dans le cas de l'âme de l'homme. Chez Datat Varma Dvarnos Afalmoto Murkaba. C'est des temps que l'on a un peu technique, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer. Que dans mon âme, par rapport à moi, mon être, ma connaissance est un élément qui vient se surajouter à ma personne. Chez Akadosh, c'est pas comme ça. Chez Aré, elle en a tourné la page. C'est bon? Charé, que chez Adam, l'omed, veyoda, et zedava, lorsqu'un homme étudie, ou qu'il connaît quelque chose, son âme rationnelle, ça veut dire sa capacité de réfléchir, existait déjà avant qu'il étudie le sujet. Ve'achar shelamad veyada, ni tosfa idiazo benafsho. Mais après qu'il a étudié, qu'il a su, cette connaissance est surajoutée à son âme. Ça veut dire que, cette connaissance ne me définit pas. Si je te dis qu'est-ce qui te définit, et c'est très important à comprendre ça. Si je vous dis par exemple qu'est-ce qui te définit, les gens vont me dire, ah, ce qui me définit, c'est la Torah que j'ai étudiée. Je dis, c'est faux. C'est pas la Torah que tu as étudiée qui te définit. Parce que tu existais avant que tu étudies la Torah. Tu existais. Il y a, comment, c'est quel penseur qui dit je pense donc je suis? Qui dit ça? Bon. Attendez, mais c'est un problème ça. C'est un grand problème. Moi j'ai un grand problème avec cette phrase. Je pense donc je suis. Ça veut dire que. C'est Descartes, oui. Ça veut dire que pourquoi je suis parce que je pense. Donc si je pense pas, je ne suis pas. Donc qu'est-ce qui définit ma pensée? Qu'est-ce qui définit mon être, pardon? C'est ma pensée. C'est faux. Ton atelier, c'est faux. Parce que ton être existait avant ta pensée. Il était là, ta naissance. T'existais depuis le ventre de ta mère. Avant même que tu commences à réfléchir. Prends, on dit par exemple chez nous, dans la Torah, que l'avortement est absolument interdit. Sauf si, bien sûr, il y a une situation de danger pour la maman, etc. D'accord? Danger extrême, il faut demander un rave, etc. C'est très compliqué. Pourquoi c'est interdit? Parce que l'enfant, il vit. Alors, t'as là qui vont dire quoi? Ça veut dire quoi l'enfant, il vit? Vous savez de quoi il a l'air, un enfant, quand il est... C'est rien, ça. C'est un cœur qui bat. C'est rien du tout. C'est même pas un cœur. C'est un truc qui bouge. Rien du tout. Tu sais rien, ça. Tu prends, tu l'enlèves.
C'est une âme.
Seulement, c'est vrai est-ce qu'à ce stade-là, on a un cerveau? Non. On n'a pas de cerveau. En potentiel, mais on n'a pas de cerveau encore. Est-ce qu'on a un cœur qui bat? C'est vrai que le cœur, c'est un des premiers, c'est le premier élément qui arrive. Mais bon, c'est vraiment embryonnaire, quoi. C'est rien. Il n'y a rien. Seulement là, tu auras dit que ça change. L'être, le moi de cet enfant, il est déjà là. Mais il est déjà là. Après, on a grandi, on lui a donné un cœur. Il y a eu une évolution. Après, il a eu un cerveau, il a eu un cœur, il a eu un cerveau, il a eu des bras, il a eu des mains, il a un système intestinal, etc. Mais est-ce que ça veut dire que s'il n'a pas ce système intestinal, il n'est pas là? Imaginez, tu préserves quelqu'un, d'accord? On a dû lui enlever, chas v'shalom, un pied. Il n'est plus lui. Il est lui à 50% maintenant, à 70%. Il est toujours lui à 100%. Imaginez, tu préserves, il ne lui reste rien, il ne lui reste que ça. Il n'est plus lui, il est lui à 100%. Donc, ça veut dire que sa main, sa tête, son pied, c'est pas lui. Très très important, comment ça? Ça nous explique toutes les définitions de la vie. Parce que les gens qui posent la question des fois, quand on a, c'est une vraie question à l'Alakha, ça. Comment définir la mort clinique? Parce que, comment définir la vraie mort d'après l'Alakha? Le moment dans lequel. C'est pas si simple. Parce que, si moi je définis la mort d'une personne au moment où son cerveau ne fonctionne pas, ça voudrait dire que ce qui définit une personne, c'est son cerveau. Et que s'il n'a pas de cerveau, il n'existe pas. C'est faux. Ça, c'est Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». La Torah te dit « c'est faux ». Et si une personne naissait sans cerveau, il est bête, son cerveau ne fonctionne pas. C'est pas une créature d'Hachem ? Alors ? Donc il est, c'est tout, il est. C'est pas parce qu'il pense, c'est pas parce qu'il sent, il est, être, le verbe être, il est. Et c'est ça que te dit le chidouche de Rambam, qui est très profond, qui te dit... Même si tu vas dire, moi je me définis par rapport à la Torah que j'ai étudiée, je te répondrai, c'est faux. La Torah ne te définit pas. C'est la Torah que tu as étudiée. Mais il y a un toi, il y a un élément qui s'appelle le moi, qui est encore plus fort que tout. Qui dépasse tout ça. Cet élément-là, c'est le ani, le moi. Et qu'on peut même pas définir, c'est qui le ani, c'est qui le ani, c'est qui le moi. Je sais pas, Monsieur Benita, il a trouvé la solution au problème, il a dit, si je le vois pas, donc il n'existe pas. C'est facile.
On peut dire aussi comme ça, bien sûr. Alors bon, on va dire, je le vois pas, mais je le ressens. Alors il est en moi, puisque chacun, il est en moi à travers la neshama divine.
Alors, dans ce cas-là, j'ai compris. Alors, est-ce qu'il y a le Monsieur Benita du premier âge, le Monsieur Benita du deuxième âge et le Monsieur Benita du troisième âge? C'est trois personnes différentes.
Oui, mais alors.
Non.
Qu'est-ce que ça change?
Mais non, ça change tout, c'est la même personne.
Heureusement, parce que s'il n'y avait pas ça.
Vous avez compris ma question?
Oui, d'accord.
C'est l'expression de cette personne qui a changé, c'est le vécu de cette personne qui a changé, c'est la pensée de cette personne qui a changé, c'est le cœur de cette personne qui a changé, c'est les pulsions de cette personne qui ont changé. Beaucoup de choses qui ont changé. On lui a rajouté des choses par-ci, par-là, etc. Mais lui n'a pas changé. Lui. Le moi n'a pas changé. Il est intouchable. Très profond comme il dit ça.
Alors donc là,
seulement nous, chez nous, l'être humain, le seul élément qui est intouchable, c'est le moi. Le moi que j'arrive même pas à sentir. Tout ce qui est autour, là, on peut modifier. Tu peux enlever de la graisse, remettre de la graisse. Enlever une idée, remettre une idée. Tu peux tout faire. Tu peux ouvrir les yeux, fermer les yeux. Sentir, boucher les narines. Je peux tout faire. Tout, je maîtrise. C'est-à-dire, je peux prendre, pas prendre. Prendre, donner. Là, je peux. Mais le moi, ça, je touche pas. Alors, imaginez que pour un cadage banrou, tout est moi.
On revient à ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas changé.
Voilà.
Tout au début, on a dit ça.
Parce que c'est la question, c'est qui le moi? Hachem, il dit, je, Annie, Hachem. Annie. Hachem, il dit, Annie. C'est qui le Annie chez Hachem? C'est tout. C'est qui le moi chez Dieu? C'est tout.
Mais si vous dites que moi, le moi, je n'ai pas changé, j'ai vieilli, premier âge, deuxième, etc. Donc, je n'ai pas changé. Donc, moi aussi, je me reporte. À la première truc, quand on lui a dit Dieu n'a pas changé. Il me dit Dieu n'a pas changé.
Mais vous n'avez pas changé. Hein. Peut-être que votre moi n'a pas changé, mais tout ce qui est autour a changé.
Même nous, on change pas sur moi.
Oui.
C'est un concept, selon l'endroit. Mais par exemple, habit juif, il y a un type, d'accord, on sait d'où il vient, qui n'a pas l'air d'un autre, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Un mec, il est peut-être de chez nous, il a pris un poignard, il a tué quelqu'un. Il est déjà à la Wakba. Je peux dire que son moi, il n'a pas changé, qu'il n'a pas changé. Il s'est quand même transformé, ce bonhomme. Il s'est quand même transformé.
Oui, parce que si, alors, il y a pas de vocabulaire. Le dit peut être traduit par le moi.
Donc il n'est pas normal. Mais il s'est quand même transformé, ce type-là.
Non, mais c'est une mauvaise herbe qui vient de son âme.
Non, mais je m'en fous, c'est pas cherche pas.
Maître, monsieur Benita, monsieur, pardon, Jacques, est-ce que, d'après vous, une personne qui est devenue mécréant, un vrai, un pro.
Ah, moi, je dis qu'il a changé.
D'accord.
Attends, je suis pas là pour le juger.
Imaginons un juif qui est devenu mécréant. Imaginons, en théorie. C'est une très bonne question.
Ben oui.
Est-ce qu'il arrête d'être juif? Est-ce que...
Non, mais c'est, d'accord, non. C'est autre chose.
Non, mais ça veut quoi, d'accord?
Non, mais tu peux pas dire qu'il a pas. Ok, il est resté juif, d'accord, il a beau crier à la voix, pas tout ce que tu veux.
Non, je pas. Attendez, écoutez bien ma question.
J'ai demandé à ce qu'on fasse de Kadhi. Il est resté juif.
Je ne valide pas son comportement.
C'est difficile de dire qu'il n'a pas changé.
Il a changé, parce que sûr, on dit bien j'ai changé. Mais quand on dit j'ai changé, qu'est-ce qui a changé? C'est mon caractère, c'est mon intellect, c'est toute l'expression qui est autour de moi. Mais la vérité, c'est que on vit avec notre expression. Ce que j'ai expliqué, tout ce que je fais avec mon expression. Je vous regarde avec quoi? Je vous regarde, c'est une expression. Je goûte, c'est une expression. Tout ce que je fais, c'est une expression. Tout ce que je fais. L'être humain est conçu comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir à l'essence. Mais la vérité, c'est que l'essence ne change pas. Et chez Akad Jorou, tout est l'essence.
Alors, à partir du moment où il a créé, donc il a employé une expression. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre.
Alors voilà, alors le problème, maintenant, j'arrive tout de suite. Il dit donc, moi, par exemple, qui suis-je finalement? Qui suis-je? Je suis un être humain qui a démarré à zéro avec un moi. Et sur ce moi, il y a eu beaucoup de choses qui sont greffées, qui font partie de moi finalement. Mais c'est des éléments surajoutés. Alors on appelle ça dans la chassidoute, Ardout Pshuta, une unité composée. Ardout Morkevet, pardon. Unité composée. Ça veut dire que, c'est qui le moi? Il y a un moi, d'accord, qui est mon essence, qui est composé. Sur ce moi, on a greffé beaucoup de choses. Mes idées, mes pulsions, ma famille, mes enfants, mes idéaux, mes goûts, etc. Maintenant, je ne peux pas les dissocier de moi. C'est compliqué à dissocier. Une personne qui pense des choses, je ne peux pas lui dire « tu ne penses plus ». Il faut le convaincre du contraire, donc il les pense. Donc, ça forme un seul bloc qui s'appelle son nouveau moi, c'est moi. Mais ce moi que je suis en train de dire est une unité qui est composée. C'est-à-dire que de base, il y a un élément de moi qui est tout au fond, qui est intouchable. Et autour de ça, on a fait une composition, comme un bouquet de fleurs. On a pris un élément, et autour, on a rajouté beaucoup de choses, beaucoup, on a une composition. Maintenant, quand tu amènes le bouquet de fleurs, on va pas te dire, il y a une fleur, et deux fleurs, et trois fleurs, et quatre fleurs. On va dire, il y a un bouquet. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc moi aussi, je suis un bouquet. Je suis un bouquet qui est composé de pas mal de choses.
Oui, mais
ce bouquet est composé. Ça veut dire quoi qu'il est composé? Ça veut dire que dans ce bouquet, par exemple, imaginez que dans le bouquet, j'enlève une fleur, ça reste toujours un bouquet. J'enlève deux fleurs, ça reste toujours un bouquet. À partir de quel moment le bouquet arrêtera d'être un bouquet? Hein? Et s'il reste une fleur, c'est pas un bouquet?
Non, il n'y a plus de fleurs.
Non, c'est une fleur.
Hein? Alors, qu'est-ce qui rend le bouquet?
Deux, il faut que...
Hein? Deux? Prends deux, c'est un bouquet? Deux, c'est une paire. Qui a décidé qu'une fleur, c'est pas un bouquet?
Ah, pardon,
c'est un bouquet. Hein? Pourquoi une fleur, c'est pas un bouquet?
On sait qu'un bouquet, c'est un.
Parce qu'en français, un bouquet, c'est une composition.
Oui.
Et une composition, il faut qu'il y ait plusieurs éléments.
Oui.
Maintenant, moi, j'aimerais trouver, et je ne l'ai pas, dans le bouquet, quel est l'élément que, si tu le mets, tu as tout, et que tout le reste, c'est surajouté, et si tu l'enlèves, tu n'as plus rien.
Ben c'est le moi.
Ah ben voilà, dans un bouquet de fleurs, j'ai pas. N'importe quel élément, tu peux enlever, tu remets, tu peux jouer avec ça. C'est toujours un bouquet, il est là. Non, pareil, dans mon élément. Imaginez par exemple que j'ai une idéologie, je vois les choses d'une certaine façon. Allez, imaginez maintenant qu'on enlève un élément. On dit maintenant, ce monsieur, tu préserves, il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à penser, il n'arrive plus à voir, il n'arrive plus à entendre. Est-ce que son moi a été altéré? Non, son moi n'est pas altéré, il est toujours là. Ça veut dire que c'est les éléments qui font partie, qui sont une composition de son unité. Mais c'est pas lui. Donc, chez l'être humain, l'unité qu'il a, le cercle, le fameux moi, effectivement, comme dit Jacques, c'est-à-dire le moi, comment je me définis? Je me définis, je suis un package avec mes casseroles, avec tout ce que j'ai. C'est moi. Mais ce moi est un être qui est composé.
Le corps aussi, c'est une composition.
Bien sûr. Tout est composé. Ça, c'est quoi ça? C'est la composition, ça. Tout ce que t'as mangé, tout ce que t'as bu, tout ce que... Hein? Mais j'ai aucun problème avec une composition, mais c'est une composition. C'est une composition.
Moi, la
Rennes, pareil. Mideyom beyom. Allez, on y va, on termine le dernier paragraphe.
Cette définition, elle aura du mal sur le plan juridique.
Oui, évidemment, parce que, non, mais attendez, bien sûr, sur le plan juridique, on peut pas, ça marche pas comme ça, le plan juridique. Plan juridique, on dit, écoutez, monsieur, vous êtes jugé selon vos actes, et vos actes, c'est vous qui les avez faits. Voilà. Racontez pas des salades, c'est un esprit qui s'est emparé de moi, je connais pas ce truc-là, moi. Hein? Ok. On avance, Rabotaï?
On avance. Hein.
Ah oui, Vechen, pareil. On termine.
Attendez, quelle page vous êtes?
Page 98. Oui. Vechen, pareil. Midiyom beyom, yamim edaberu. Donc, l'homme, son âme pensante existait avant qu'il utilise cette idée. Et l'idée est venue se surajouter à sa personne. Et pareil, Vechen midiyom beyom, jour après jour. Comme il est écrit dans Job, Yamim Yedaberu, les jours parlent. Verov Shanim Yodiu Chorma, et les nombreuses années enseignent la sagesse. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'y a que l'expérience qui va t'apprendre. C'est tout. Que l'expérience. On peut pas avoir ça à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Il y a des choses que, tu pourras avoir que à 20 ans, que à 30 ans, que à 40 ans, que à 50 ans, quoi. Il y a une expérience qui se forme par la vie. C'est quoi cette expérience? C'est ce qui forme ma personnalité. C'est ce qui se surajoute à ma personnalité.
C'est ce qui forme le
et
groupe.
C'est très important, ça. Parce que finalement, c'est ce qui fait la différence entre moi à 0 ans et moi à 120 ans. Parce que si mon moi n'a pas changé, qu'est-ce que, alors, proche venu? C'est que tous ces éléments
c'est
qui sont mis autour.
Qui a changé.
Tout le bouquet qui a changé, tout ce que j'ai construit autour. En bien ou en mal. En bien ou en mal. J'ai construit des choses. J'ai fait des choses. D'accord? J'ai construit des idéaux, j'ai construit une famille, j'ai fait des choses. Bien sûr, j'ai fait des choses. Mais il n'empêche que ces éléments, comme dit Job, il y a Mimi et Daberou, les jours qui parlent et les années qui enseignent la sagesse, ça reste un élément, une unité composée. C'est-à-dire, c'est pas moi. C'est quelque chose qui est venu se greffer à ma personne. V'enzo ardut shuta et l'amour kevet.
Est-ce qu'on est tous avec le même moi?
Ce n'est pas une unité simple et parfaite, mais composée. Avalakadosh Baruchu ou Ardut Pashut. En revanche, Dieu est une unité simple. Ardut, unité, d'accord? C'est-à-dire le Ardut, l'unité, l'union, l'unité. Pashut, simple. Bleshum Arkava Vetzed Ribuiklal, sans composition aucune, ni le moindre élément de pluralité. Ça, je suis incapable de le dire sur moi. Parce que moi, je suis une composition. Composition de plusieurs éléments. Certes, je suis un seul être, mais je suis quand même une composition. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune composition. Et là, on commence à comprendre où il veut nous amener le Tania.
Il y a les trois choses chez Akadosh Baruch Hu.
Oui, mais justement.
En même temps. Donc il y a une composition.
Non, c'est exactement le contraire. C'est que les trois choses forment un seul élément.
C'est ça la différence.
Oui, mais c'est les trois. Il a besoin des trois.
Non, non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que les trois éléments sont en même temps.
On
ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les discerner. C'est même pas qu'on ne peut pas les discerner, on ne peut pas. Il y a aucune séparation. C'est une unité profonde. Là, on commence à comprendre maintenant ce qu'il veut, où il en est le Morazaken.
C'est pour ça qu'il dit pas.
Son objectif ici, c'est de nous amener à l'idée de comprendre comment Dieu n'a pas changé par la création du monde, et pourtant nous on voit les choses différemment. Parce que nous, tout ce qu'on réfléchit, c'est en mode composé. C'est pour ça que même quand tu penses à Dieu, tu te dis à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il est extérieur à moi. Et là, c'est l'idée avec laquelle je voudrais qu'on conclue aujourd'hui. C'est fait toujours partir de quelque chose. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de changer les lunettes. Plusieurs après dans la semaine qui sont revenus, qui m'ont dit comment ça les a aidés dans certains domaines, de réfléchir comment on change la façon de voir les choses. Et là, on est dans la même lignée. De dire, ça veut dire quoi changer les lunettes, changer la façon de voir les choses. Changer la façon de voir les choses, ce que nous a appris aujourd'hui l'Admor HaZaken, c'est que nous, la façon comme on analyse Dieu et comme on analyse tout ce qu'on a à faire, on dit, il y a moi, et est-ce que je dois faire? Ou pas. C'est-à-dire que il y a moi, il y a Dieu qui est extérieur à moi, qui m'a dit de faire ça, je peux l'écouter ou ne pas l'écouter. Bon, j'ai envie d'écouter, j'ai pas envie d'écouter, je fais pas, c'est extérieur à moi. Et c'est pour ça qu'on fait des choix qui peuvent des fois être bons, qui peuvent des fois être pas bons. Et des fois il y a des choses qui arrivent dans la vie, des galères qui nous arrivent dans la vie. Et comme on a toujours l'habitude d'analyser les galères, d'analyser les choses extérieurement, donc je dis il y a une galère qui m'est arrivée. Mais si vous disiez que finalement la galère c'est Dieu. Et que la galère c'est vous, et que la galère c'est Dieu. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Parce que rappelez-vous que chez Akadosh Baruch Hu, on peut rien dissocier. Donc ça, on va très 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 loin avec cette idée. C'est qu'il n'y a pas une personne qui m'a embêté, il n'y a pas une chose qui m'est arrivée. Tout ça, c'est Hachem. Ça fait partie de l'unité d'Hachem. Une unité simple, pas une unité composée. On va aller très 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 loin avec cette idée. Comprendre l'ardoute, comment Akadosh Baruch Hu finalement, c'est pas seulement qu'il gère tout ce qui est dans ce monde. Parce que même t'as un PDG qui peut gérer beaucoup de choses. Il peut gérer beaucoup de choses. À un moment, on le met en prison. Après, il peut s'enfuir. Mais
Carlos.
On le met dans un losange et il s'en va. D'accord. Bon, ça c'est
un caisson.
Et sérieusement.
On le met dans un caisson, il s'en va au mois de Nissan.
Non mais sérieusement, ça veut dire que tu peux diriger des choses, mais tu n'es pas les choses. Et on peut te bloquer dans ce que tu fais. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne dirige pas le monde. Il est le monde. Ça change complètement. Bon, on va s'arrêter là. On a assez dit pour aujourd'hui. On continue, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Toujours dans la même lignée, l'idée du Rambam.
Il est mon téléphone aussi.
On fait un vite ?
Oui, monsieur. Oui. Qui n'a pas fait un vite, levez la main.
Allez, venez.
Levez la main.
David.
4. On va rester, bon. Allez.